la voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Roger Munier s'entretient avec Michel Camus. Deuxième entretien.
Roger Munier, la philosophie n'occupe, je crois, dans votre œuvre qu'une part assez réduite, bien que vos premiers écrits publiés avaient une tendance philosophique, comme ce premier livre publié chez Gallimard, Contre l'image, en 1963. Avant cette écriture que tout le monde reconnaît, un peu, qui est typiquement Munier, qui est le fragment, l'aphorisme, cette pensée qui traverse et qui passe par une certaine écriture qu'on peut dire poétique sans que ce soit de la poésie, la versification, etc. Vous avez publié un livre qui est très important, me semble-t-il, sur le plan de la pensée en 1970, qui est Le Seul. C'est un livre difficile, c'est une écriture extrêmement serrée et on a l'impression que vous faites là la condensation, votre vision métaphysique de l'époque et intervient dans cet ouvrage, c'est cette énigme de la présence comme une éclosion de l'invisible dans l'apparence. Et ça, c'est un thème qui revient, mais l'invisible dans l'apparence où il se perd, quoi. Et on a l'impression que c'est là aussi un thème tout à fait heideggerien. Comment placez-vous justement cet ouvrage Le Seul dans votre œuvre ?
C'est heideggerien, mais pas vraiment. Pas vraiment. Je suis parti, là encore, d'une intuition qui reste vraie aujourd'hui, qu'on peut retrouver même dans certains textes brefs, publiés à droite et à gauche, et qui est celle de l'opacité du monde, mais une opacité, pour ainsi dire, rayonnante, n'est-ce pas ? Comme si quelque chose nous parlait dans le monde extérieur qui en même temps reste toujours muet. Alors, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'en finisse avec cette espèce d'intuition et que je dise ce qu'il en est à mes yeux. Et c'était un jour d'été, je me souviens, j'étais seul à Paris, les enfants étaient en vacances avec leur mère en Espagne, et j'ai pris une feuille de papier, et je me suis dit, voilà, aujourd'hui ça commence. Et c'était la première phrase du livre, j'interroge le visible, je cherche dans le visible une dimension perdue, etc. Et cette intuition-là s'est développée en 7 chapitres, dense, un peu trop peut-être, et où le côté de célébration du monde, le côté rayonnant de l'opacité, était surtout mis en lumière. À présent, je serais tenté d'insister davantage sur l'opacité de ce qui rayonne. Mais en fait, la seule chose qui m'est importée de saisir, et c'était ce que Brice Parrain avait très très bien compris en disant, il y a peu de livres aussi serrés sur l'immanence. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a pas d'autre monde, il y a dans le monde tel que nous l'approchons une dimension d'invisible qui le fait ce monde qu'il est. Mais tout est un et indivisible. C'est le sens du titre « Le Seul ». Il n'y a pas d'autre monde, il n'y en a qu'un, c'est lui, le seul. L'absolu est donné dans le contingent lui-même. L'infini est donné dans le fini lui-même. Quand on voit une rose, Pour moi, dans cette rose est présente l'absence de tout bouquet dont parle Mallarmé. C'est une vision anti-idéaliste, anti-platonicienne d'une certaine manière, qui cherche à retrouver l'unité tendue, mais réelle, au cœur de ce qui reste, par la force même des choses, une énigme, mais une énigme chaleureuse, une énigme dont nous sommes, une énigme, je ne dirais pas qui nous aime, mais une énigme qui nous entoure, comme on dit qu'on entoure quelqu'un de son affection ou de son estime. Alors, le sentiment d'être, non pas devant le monde, mais en lui, non pas d'être devant la rose, en regrettant qu'elle soit cette rose finie, mais en découvrant en elle, dans la merveille de l'instant, le fait que cette rose, je la vois en ce moment comme je ne la verrai jamais plus, qu'elle est elle-même comme elle ne sera jamais plus, d'une certaine façon, qu'elle est, pour ainsi dire, l'absolu de la rose, c'est un peu ça le cœur de la vision qui est développée, parfois un peu, de façon un peu longuette à mes yeux d'aujourd'hui, dans Le Seul. Il va d'ailleurs y avoir une nouvelle édition de ce livre que j'ai allégé de pas mal d'exaltation qui tenait un peu à la jeunesse.
Ce que vous disiez de la rose, on ne peut pas s'empêcher de penser à Héraclite d'ailleurs. Mais dans Le Seul, est-ce qu'on n'a pas une abstraction comme le Tao, c'est-à-dire quelque chose qui résume tout?
Bien sûr que si, bien sûr que si. Et moi, d'une certaine manière, j'ai été plus impressionné par la découverte du taoïsme que par celle du bouddhisme. Le taoïsme est plus profond. Et le Tao, c'est le seul. C'est la même chose, d'une certaine manière.
Et en même temps, dans la démarche de ce livre, dans l'écriture, n'est-ce pas dans la technique, dans l'approche, quelque chose qui appartient à la théologie négative ? Au pseudo-Denis, par exemple.
Bien sûr, mais pratiquement tout ce que je fais est imprégné de ça. Vous savez, on parle de théologie négative parce qu'il n'y avait que, à l'époque théologique qui fut celle où l'on parlait de théologie négative, Dieu ne pouvait être approché que de cette façon. S'il y a un progrès qui est fait aujourd'hui, on a l'impression que c'est que le monde lui-même devrait faire l'objet d'une cosmologie négative. C'est-à-dire, le monde nous échappe, peut-être pas autant que Dieu nous échappe, et qu'en parler n'est peut-être pas aussi difficile que de parler de Dieu. Mais en fait, l'énigme des choses est de nouveau extrêmement présente à notre esprit maintenant. Alors, on parlait de théologie négative et ce cheminement était réservé à l'approche du divin. Moi, je pense que c'est un cheminement qui est en droit celui de toute approche de connaissance. Et les aspects peuvent être divers. Dans ce livre, dans Le Seul, le mouvement même de l'écriture est différent de ce qu'il est ailleurs et de ce qu'il sera surtout dans la suite. Je veux dire que j'étais à cette époque plus sensible à ce que André Breton appelle le caractère inépuisable du murmure, n'est-ce pas ? Les phrases sont longues, la prose est relativement riche, les paragraphes sont immenses, parfois durent 3 pages, et parce qu'il s'agit de quelque chose d'un peu incantatoire, n'est-ce pas ? D'un peu incantatoire, pour essayer de dire en termes par force insuffisants quelque chose qui est l'absolue profusion, qui était à mes yeux à cette époque l'absolue profusion. Et ça continue maintenant parce que je pense que le réel... Je voyais hier soir, après une journée de neige, le ciel s'était dégagé et le couchant n'était pas rose comme il est ordinaire dans ce pays, mais bleuté. C'est tout à fait admirable parce que les grands sapins qui sont là et qui étaient poudrés de neige sur ces espèces de manches qu'ils ont, n'est-ce pas, qui descendent vers la terre, qui sont inclinés, comme un mouvement d'adhésion au blanc et au bleu, et qui aurait été en même temps un mouvement d'apaisement d'un excès, de quelque chose qui semblait un excès de beauté. Le moment n'a pas duré longtemps, comme à l'ordinaire, le crépuscule est bref, mais le monde est excessif pour moi. Il pêche par excès, c'est-à-dire que tous ses côtés négatifs ne sont rien à côté de l'énorme affirmation admirable, profuse de lui-même, qui se produit très souvent finalement, et pour quelqu'un qui observe même, je dirais, à tout instant. Et en même temps, hier soir, je n'aurais pas su dire quelle était la qualité exacte de cet instant bleuté du crépuscule.
Oui, parce que là intervient quelque chose d'important et qu'on retrouve dans toute l'œuvre, c'est le rapport entre ce sentiment du réel qui échappe, le rapport de ce sentiment avec la langue. Et il y a chez vous cette conscience finalement de la relativité de la langue par rapport à un absolu.
Tout à fait. Alors c'est pour ça aussi que je ne m'efforce qu'à une seule chose, c'est à être naturel. On approche, ou on a chance d'approcher cette dimension dont je parle du couchant d'hier soir, qu'à force de naturel dans les mots, tous les mots, dès qu'ils viennent faire des grâces devant l'esprit, s'avèrent insuffisants. Il faut la plus grande simplicité, le plus grand naturel. Et le naturel éclos de lui-même en poétique. Mais le poétique n'est jamais surajouté. Le poétique est une éclosion du naturel des mots les plus simples choisis, ou sinon choisis, tout au moins préférés à d'autres. Et c'est la raison pour laquelle, ce que vous dites est très, très juste, je ne sais pas ce que c'est que le mouvement de l'écriture dont parlent certains écrivains. J'entends une sorte d'appel, je me mets à l'écoute de cet appel, et pour le servir, je me sens tenu d'user des mots les plus simples et en général les plus courants. Mon vocabulaire est assez restreint, finalement. Seulement, tout vient d'une certaine qualité exquise qu'ont certains mots. Par exemple, hier soir, c'était bleuté. Bleuté véhiculait ce que l'instant, qui a duré tout de même une bonne dizaine de minutes, avait d'énigmatique et de somptueux en même temps, de murmuré. De saluer par les branches des grands sapins qui semblaient conjurer la beauté en même temps que la célébrer. Bleuté véhiculait tout ça. Quel mot plus simple.
Mais on a l'impression que la réalité des choses disparaît dans ce qu'évoque la réalité de la langue.
Dans les choses que j'écris.
Comme si le monde ne pouvait pas être atteint, il finit par disparaître.
Mais oui, je pense que c'est ça le miracle de toute écriture, n'est-ce pas ? C'est pas de faire quelque chose qui soit un double du monde, mais c'est de faire quelque chose qui ne soit, pour ainsi dire, ni le monde, ni la seule écriture, qui tienne à la fois du monde et de l'écriture, qui libère dans le monde une dimension qui soit, pour ainsi dire, du monde, et qui en même temps allège l'écriture pour une dimension qui, à mes yeux, est la vérité de l'écriture et son plus bel accomplissement.
Moi, j'ai le sentiment que ce qui compte derrière votre écriture, quand on vous lit, c'est une certaine vie silencieuse, une certaine façon de vivre et de sentir avant la langue. Et puis que la langue intervient là comme une métaphore, comme une allusion bien à quelque chose qui...
Mais c'est ce que nous disions hier à propos de l'amont. C'est toujours la même chose, n'est-ce pas ? Il y a un amont de l'écriture. C'est le domaine que j'affectionne par-dessus tout, il y a aussi un amont de la langue, là où les mots, pour ainsi dire, ne sont pas usés, ne sont pas décolorés, éventuellement sont rechargés d'un sens qui fut celui de leur belle origine. Moi, l'origine du langage, à mon avis, on ne peut faire que des hypothèses, mais moi je serais assez porté à croire à l'une d'elles. Les mots sont venus d'un émerveillement. Devant la mer, par exemple, le premier homme ou un enfant, des générations très, 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 très reculées qui éprouvent un sentiment comparable à celui qu'exprimait cette petite fille, je me souviens, n'est-ce pas, qui était très belle et qui, la première fois qu'elle a vu la mer, a déclaré « C'est la première fois que j'ai assez à voir », ce qui est superbe. Ce sentiment-là peut très bien finir par engendrer un « a » ou un « o » ou je ne sais quoi, qui, modulés, finalement, deviennent les mots. Il faut les rendre à l'amont du saisissement primitif, autant qu'on peut.
Dans cette aventure de la pensée, qui remonte justement aux années d'adolescence, de séminaire, etc., qu'est-ce que la pensée apporte à la vie ?
Vous savez, là, moi, je n'ai jamais... On me disait, ah oui, tu verras, quand tu auras 30 ans, tu verras. Bon, ben, j'ai eu 30 ans et je n'ai rien vu, n'est-ce pas ? La vie, en elle-même, n'apporte rien.
Non, mais à votre propre
alors,
vie,
non, mais justement, alors, c'est précisément ça. Par contre, une intensité de questionnement aide à découvrir la vie. Et cette découverte de la vie, c'est un apport de la vie qui est un apport considérable. Mais il n'est pas donné automatiquement, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui ont vécu des expériences terrifiantes et qui n'en ont pas été du tout transformés. D'autres gens qui ont vécu des expériences relativement marginales et qui en ont été fortement impressionnés. Pour moi, la vie est toujours... La vie, c'est ce qui passe à côté de la vie, si vous voulez. C'est peut-être, au fond, quelque chose de profond pour moi, étant donné que j'ai toujours dû vivre avec deux vies, pour ainsi dire, et même maintenant encore. La vie n'est pas ce qui est vécu. D'une certaine manière, ce moment-ci est une chose qui nous échappe absolument. Nous ne sommes pas dans la vérité de ce moment, puisque nous fonctionnons.
Parce que
vous me posez des questions, j'y réponds.
Vous posez le problème de la conscience.
Alors, c'est ça. Alors, le problème, la conscience est terrible parce que la conscience peut avoir cet effet destructeur et nous couper le souffle à tous les deux. Brusquement, prenant conscience de ce cas d'assez surprenant, n'est-ce pas, devant des appareils hétéroclites, n'est-ce pas, de nous livrer à une conversation. Vous n'ayez plus l'envie de me poser de questions, ni moi tellement l'envie d'y répondre. Mais nous fonctionnons. On appelle ça la vie. Ce n'est pas la vie. Où est-elle, alors, la vie ?
C'est la vie de la vie.
Alors, la vie de la vie, c'est ça, justement. Ça va être dans ce qui va sortir de nos entretiens. Ce qui va peut-être toucher d'autres êtres. Et nous échappera à nous totalement. On est évacué soi-même dans la mesure où on croit faire une œuvre, en réalité on en est expulsé, n'est-ce pas ? On en est expulsé. Alors moi je n'ai jamais cru à la vie, à ce qu'elle a de tellement intéressant, simplement elle modifiait ma méditation intérieure. Elle opposait ses dénis, elle opposait ses nuances, elle l'enrichissait. Mais si je voulais résumer, je dirais que depuis... mon premier souvenir, qui est puisqu'on parlait de retour à Mons, celui-là mérite d'être souligné, nous habitions Nancy, il y avait une fête de famille, et la dernière voiture venait de disparaître au coin de la rue. Et je sens encore, contre mes tempes, le froid, des deux barreaux de la grille, j'étais appuyé contre cela et une sorte de déchirement m'a saisi lorsque le bruit de la voiture s'est éteint et que j'ai compris que la fête était finie. J'étais déjà le même être à ce moment-là, n'est-ce pas ? J'étais déjà le même être, absolument. Alors, cette expérience de la vie n'est pas une expérience qui autre à mes yeux que celle d'un questionnement qui aurait commencé dans cet âge très tendre, qui continue encore aujourd'hui, et qui tout de même modifie mon existence. Je ne suis pas avec vous, peut-être comme d'autres le seraient, j'y mets plus d'intensité, un souci de vérité plus grand, mais en même temps, la vie, qui est la suite des événements qui fait que nous parlons en ce moment l'un devant l'autre, à mon avis, ça ne pèse pas lourd.
Alors, si on se fait un retour en arrière, si après un demi-siècle de questionnement, d'interrogation, etc., est-ce que vous avez le sentiment que ce chemin de la vie a quand même été un chemin des ténèbres vers moins de ténèbres, vers plus de lumière? Est-ce que là, il y a une espèce de d'évolution de la conscience, je veux dire?
Vous savez, vous parlez beaucoup de conscience, je comprends, parce que vous êtes océanien. Moi, je ne le suis pas du tout, n'est-ce pas ? C'est ça la grande différence entre les heideggeriens et les autres, c'est que la conscience n'est pas un point de départ du tout. C'est un point de départ cartésien, mais ce n'est pas du tout un point de départ de la pensée, à mon avis. Et la conscience a un effet plutôt négatif, à mes yeux. Je crois que les choses les plus valables se passent non pas dans l'inconscience, non pas nécessairement dans le subconscient, mais en tout cas dans ce qui ne ressortit pas à la dimension éveillée, décidée, résolue de l'acte conscient. L'acte conscient, à mon avis, sauf dans certaines circonstances d'ordre moral notamment, et c'est très rare, la plupart du temps, le courage n'est pas un acte de conscience. Le vrai courage qui entraîne éventuellement la perte de la vie sur un champ de bataille. L'acte de conscience ne produit pas autre chose qu'une sorte de réconfort personnel, je dirais. Alors, est-ce que les 50 années, le demi-siècle, n'est-ce pas, de vie, représentent pour moi un itinéraire des ténèbres vers la lumière? Je dirais plutôt que d'une certaine manière, ils représentent un itinéraire de la lumière relativement trompeuse, lorsque les forces de la vie sont encore très jeunes, vers des ténèbres de plus en plus chaleureuse. Ce serait plutôt ça, mon cheminement. Et d'une certitude qui était de célébration, notamment dans ce livre, le seul, vers une incertitude, mais qui n'est pas du tout désespérée. En ce sens que le problème pour moi maintenant me semble être à peu près celui-ci, de savoir quel sens il peut y avoir dans un monde apparemment dépourvu de sens. Quel est le sens de ce qui n'a pas de sens? Quelle est la dimension qui est au-delà ou en deçà du sens, n'est-ce pas? Alors moi je ne sais pas ce qu'est ma vie, si ça a été un cheminement. Je crois que la route va vers de plus en plus de sérénité, d'une certaine sérénité, mais en même temps d'un désenchantement profond auquel il me semble qu'il faut ajouter de la valeur, qui a valeur en lui-même alors qu'il est la négation de toute valeur.
Ça, c'est le thème de votre livre, la mélancolie.
Voilà, c'est ça, exactement, exactement, c'est ça. Alors le cheminement, c'est plutôt ça. Au fond, je ne suis pas très fier de moi, premièrement. Je ne me plais pas, je ne m'aime pas du tout. Je m'aime de moins en moins.
Ça, c'est très chrétien aussi.
Je m'aime de moins en moins, mais vraiment pas du tout. Je suis de plus en plus, comment dirais-je, pénétré de l'idée que ce que je fais ne m'appartient pas, que le meilleur est donné, que de toute façon, il restera peu de choses de tout ça, et que c'est bien du mal qu'on se donne d'enregistrer des émissions, de faire des livres, de corriger des épreuves, etc. Parce que quand restera-t-il dans même simplement un ou deux siècles? Et alors, la seule chose, c'est ça. Oui, mais précisément, voilà, on est dépossédé, on se perd de plus en plus de vue, il faut savoir se perdre de vue. Je crois que c'est tout à fait essentiel et que ça libérerait beaucoup de gens s'ils le pratiquaient. Ça les guérirait de beaucoup de névroses, de psychoses ou de maladies dépressives. Il faut se perdre de vue, consentir un mouvement qui nous emporte, qui apparemment nous détruit, nous méprise, ou tout au moins nous considère comme peu de choses, car c'est là, peut-être, s'il fallait chercher du sens, c'est là, dans ce qui est la négation la plus complète, qu'il y a peut-être à chercher du sens.
À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Roger Munier s'entretenait avec Michel Camus. Demain, troisième entretien. Réalisation Nicole Salerne.